première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Je travaille avec les saisons des organes et la saison de la nature, en fait. Et comme beaucoup de choses changent aujourd'hui dans la saison, je fais en fonction de moi.
Marchin, village d'artistes. L'art de la bouche, l'art du visible. Marchin, village d'artistes. L'art de la bouche. Avec Arabelle Merlan, Joël Rochette, Sébastien Bruau, Pierre Thierry-Failly.
D'écouter les saisons de mon corps, c'est la médecine douce chinoise. Tout dans ce monde asiatique, c'est beaucoup inspiré de l'Ayurveda, qui est l'équilibre. Donc je mets en symbiose aujourd'hui tout ça. J'écoute mon corps, je teste, je goûte tout sur moi. Et quand je sens que c'est OK et que ça me convient, je le diffuse dans ma cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'avais envie d'avoir mon but, j'avais envie d'être juste avec moi et j'avais envie d'être juste avec les clients. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et on ne peut pas mentir. Et la seule chose que je peux faire, c'est montrer que c'est possible de s'écouter, de donner des astuces, des clés et de rayonner ce que je suis. Voilà. Moi, je ne peux pas mieux l'expliquer. Après, il faut... je vais vous montrer un peu tout ce que je fais. Donc là, c'est la 10e année que je fais mon potager parce que j'apprends...
Mais avant ça, oui, comment écoutez-vous votre corps ?
D'abord, j'apprends à bien me connaître. Et puis, je suis une femme, j'ai besoin de courage, de pensée positive. J'ai eu des enfants, donc j'ai besoin de vitalité, de force. Je ne peux pas être malade.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Paschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tentoc, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
De bien se nourrir tout au long de l'année pour ne pas tomber malade. Ben moi, je suis dans cette optique-là. Parce que quand on est malade, je suis indépendante, donc je ne peux pas fermer. Donc, je prévois d'être en bonne santé et c'est ça que j'ai approfondi au niveau des saisons du corps. C'est par exemple maintenant, ici l'automne, on est sur les saveurs piquantes, les poumons.
Marchin, village d'artistes, l'art de la bouche. Avec Arabelle Merlan, Joël Rochette, Sébastien Bruau, Pierre Thierry-Failly. Marchin, village d'artistes, l'art du visible, avec Jean-Paul Ruel, Jackie Le Couturier, Sylvie Cannon, Jean-Michel, Marie-Ève Maréchal et Pierre Mossou. Marchin, village d'artistes, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Les couleurs de l'automne qui changent, il y a tout qui tombe. On aurait envie de déprimer. Et là, justement, il faut regarder. Donc, c'est là la pensée positive qui arrive. Observer toutes les couleurs de la nature qui sont belles. Et toutes ces couleurs, il faut les intégrer dans l'assiette. Et on est sur les saveurs piquantes, en fait, l'automne. Donc, pourquoi ? Pour vraiment chauffer notre corps, parce que les saveurs piquantes nous fait détoxiner, expectorier, ça nous booste la chaleur, c'est comme quand on est malade, si on prend un bon bouillon avec un peu de piment, ben on va transpirer, donc on va transpirer nos toxines. Et c'est ça en automne, c'est ne pas avoir froid et se détoxiner convenablement, après se renourrir. Donc là on passera sur la saison de l'hiver, mais en automne, enfin fin de l'été, je récolte tous les légumes et tout ça, je fais des conserveries dans le sel parce que l'hiver, on va passer sur le Rhin vessi, donc les saveurs salées naturellement. Donc nous allons boire plus de bouillon aussi. Et également, les saveurs salées, c'est aussi pour renourrir notre microbiote avec des probiotiques naturels qui seront dans la fermentation.
Sol Rochette.
L'art de la bouche, l'art de la table, et bien évidemment, avant tout ça, l'art de la terre. C'est l'art de travailler la terre et l'art de travailler les essences qu'Arabelle Merlan plante dans son jardin, qui est captivant. Qui est captivant parce que je suis très très impressionnée. J'ai connu ce jardin, pas du tout à l'état de potager, mais à l'état de jardin privé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait juste le mari d'Arabelle, Pierre, qui était sur son tracteur, qui drainait la terre et qui préparait. Et puis c'est devenu un potager luxuriant, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionnée de voir qu'en quelques années, on arrive à un tel résultat. Tout ça, c'est de l'art, effectivement.
Sébastien Bruau.
Ma formation initiale du tout, c'est une passion. C'est une passion et je fais mon jardin à la maison depuis des années. Mon papa faisait déjà son jardin, voilà, j'ai suivi un petit peu, j'ai perpétué.
Et ce jardin-ci, par rapport au jardin que vous faites, quelle est la différence ?
Totalement différent. Déjà, bon, la surface est un peu plus grande, importante ici. Et puis, on met beaucoup de choses autres que ce que je mets plus classiquement chez moi.
Marchin, village d'artiste, l'art de la bouche.
Ma spécialité, ce sont les solanacées. Donc les tomates, les poivrons, les aubergines et un petit peu les cucurbitacées également. Je fais un petit peu de légumes classiques en pleine terre et en bac surélevé. Donc voilà, je suis déjà un peu familier de ce qu'on a ici également. Bon, ben ici, on met beaucoup plus évidemment de légumes qui doivent servir dans le restaurant. À la maison, on en met en moindre quantité, évidemment.
Quête de bonheur, une quête de bien-être. Une quête de longévité, je pense, par les produits de table, les produits que l'on mange. Une quête d'esthétique aussi, parce que là, on a vu le jardin qui a l'air sauvage, mais qui est quand même bien, bien équilibré dans son esthétisme, dans son agencement. Et tout ça va se retrouver dans l'assiette. Les assiettes sont aussi esthétiques, aussi artistiques que ne l'est ce jardin. Donc, c'est tous les sens qui sont en éveil. Je pense que c'est une quête, elle ne le dit pas, elle ne le formule pas comme ça, mais moi je sens que c'est une quête de perfection de l'art de la bouche, mais de l'art de se nourrir aussi, et être en symbiose avec la nature.
Je cherche par moi-même, maintenant je demande souvent à Arabelle de quoi as-tu besoin dans le restaurant, mais elle me laisse en général carte blanche, on ne se stresse pas, j'essaye de réfléchir un petit peu, de ne pas semer idiotement, je vais dire des choses dont elle n'aura pas besoin, du moins en quantité importante. Je réfléchis, je parle également avec les autres cuisiniers et j'essaye de faire pour qu'ils aient de quoi faire dans le restaurant, évidemment.
Voilà, ici ce sont les alcools, parce que comme je fais aussi les fruits, les herbes sauvages, vous avez des mirabelles sauvages qui ont été cueillies. Alors là, je fais des liqueurs, mais très légers, pas trop de sucre, avec les herbes.
Mais pour le moment, on hiverne les plantes, donc je déterre toutes les plantes qui sont sensibles au gel, puisqu'on commence à avoir des petites gelées nocturnes.
Façon chartreuse, on va dire, où j'ai cueilli un peu de chaque herbe, et alors j'ai macéré, et puis voilà. Ici, c'est le limoncello, avec des citrons qui venaient d'Italie naturelle aussi, qu'on a fait, parce que je voulais le faire moins sucré, en fait.
Je les rends en pot pour les mettre en table chauffante pour qu'elles passent l'hiver au chaud, qu'on puisse les replanter au printemps.
Alors j'ai fait aussi à la rose, avec toutes les roses, les surplus que j'ai eues, je les ai macérées pendant des mois et des mois, plus de 6 mois. Et j'en ai vraiment extrait une saveur délicieuse. Le souci avec les alcools, c'est que les gens consomment moins d'alcool maintenant, après les repas et tout ça, qui pourtant sont assez digestives. Mais alors, quand je ne les utilise pas, je crée des cocktails. Donc je les mets en premier. Et avec ces bases-là, donc je fais des cocktails créatifs et avec des goûts différents qui n'existent pas sur le marché. Ça aussi, c'est intéressant et c'est très plaisant aussi.
Bon, ici, je viens de déterrer des géraniums aromatiques, je veux dire des géraniums roses. On a des verveines d'Argentine, des choses sensibles au froid, quoi. Différentes. On avait des aloe vera qui étaient en pleine terre, on a mis pour l'été, je les ai rentrées également. On peut aller voir si vous voulez.
Quand on boit un apéritif de fruits rouges, ben, franchement, moi, je sens que ça fonctionne bien dans mes intestins, bizarrement. Enfin, bon, voilà, c'est pour moi. Maintenant, ça peut faire d'autres effets à d'autres personnes. Et puis, avec les herbes aussi, c'est très digestif. Donc,
Pour les tomates, ça, je les fais un peu plus tôt en saison également, parce que c'est ce que j'aime vraiment, les tomates. On avait mis une petite cinquantaine de variétés de tomates. Donc, moi, j'en ai encore plus à la maison. J'en ai près de 500 variétés en graines. On a récupéré, comme ça, à partir du mois de février, je vais commencer à ressemer les tomates, les aubergines, les poivrons, piments doux et piments piquants.
Vous expérimentez ?
Oui, je teste. chaque fois tout, aussi, surtout.
Vous lisez beaucoup, il me semble.
Je lis beaucoup, oui. Je suis très documentée, donc beaucoup sur les cueillettes, comment reconnaître les herbes et comment aussi les consommer, parce qu'il y a des herbes qu'il faut être peut-être plus cuites ou moins cuites. C'est ça aussi que j'étudie beaucoup, le paradoxe, la toxicité des plantes, parce que c'est aussi intéressant de savoir que dans la nature, comme dans les êtres humains, il y en a des bonnes et des mauvaises. Et il faut de tout pour faire un monde, et si on n'avait pas des mauvaises, on s'ennuierait, hein. Pour nous titiller et de faire attention aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on mange.
On a testé cette année-ci justement, pas d'Afrique, mais des légumes dont on ne parlait pas en tout cas chez nous, et qu'Arabelle a ramené de ses voyages en Asie, des concombres serpents, des courges serpents, dont on ne parlait pas beaucoup chez nous il y a une vingtaine d'années encore. Quelques passionnés en avaient, évidemment. C'est aussi plus facile, je pense, maintenant, de faire tous ces légumes-là. Le réchauffement climatique étant pour quelque chose, on gagne quelques degrés et ça permet de faire plus facilement ces légumes-là. Mon papa s'essayait déjà il y a une vingtaine d'années à ce genre de choses, mais c'était plus difficile, je pense.
On est sur les saveurs piquantes pour les poumons, pour vraiment transpirer, détoxiner, donner du baume au cœur, la chaleur. Et on est aussi sur les racines, on est aussi tout ce qui est légumes ronds, potirons.
Joël Rochette, la personnalité qui nous accueille à l'intérieur du monde de la cuisine de haut niveau en Belgique, est-elle reconnue ou est-elle tout à fait particulière ?
Moi je la connais depuis des années, depuis très très longtemps, quand elle était dans son tout petit restaurant de Huy. Au départ, elle se destinait à être styliste. Ne se voyait pas chef de cuisine. Elle s'est mise à cuisiner et de fil en aiguille, elle s'est prise au jeu et elle n'a pas du tout été reconnue tout de suite. Vous savez que les femmes dans ce métier, non seulement elles sont minoritaires, elles sont un peu laissées pour compte du milieu de la haute gastronomie. C'est difficile pour une femme ce métier. Hein. Elle-même en fait les frais et en a fait les frais parce qu'elle est maman, elle a deux petites filles, elle a dû trouver son chemin à travers tout ça. Elle a une brigade, donc elle a une équipe en cuisine qu'elle doit diriger comme un chef de cuisine. Tout ça a fait qu'elle s'est construite petit à petit.
Les courges spaghettis, on est aussi sur les carottes, les betteraves, toutes les couleurs de l'automne.
Et justement, Joël Rochette me disait combien l'assiette, le visuel, le visible, est important pour vous.
Allez. Excellente, et elle fait des choses vraiment tout à fait particulières. Elle a sa petite touche personnelle pour les sauces et tout, que je ne sais pas faire. J'avoue, je n'ai pas son petit truc. Je lui demanderai peut-être à l'occasion.
Elle s'est construite vers ce chemin qui lui est propre. Donc, elle n'a pas du tout été reconnue pour ça dès le départ. Elle n'a pas tout de suite été reconnue pour sa cuisine et pour sa gastronomie. Au fil du temps, tout doucement, l'air de rien, elle a fini par s'imposer. Et maintenant, le monde de la gastronomie compte avec elle, bien évidemment. Elle est étoilée, elle a été lady chef, elle est très bien cotée dans les guides. La reconnaissance est là. Ça lui a pris, je pense, un peu plus de temps que pour un homme. Et on connaît en Belgique certains chefs de cuisine qui ont la même démarche vers la nature, vers le potager personnel. C'est un peu une mode aussi. Hein.
J'imagine ma cuisine comme ma vie, belle, goûteuse, croustillante, plein d'amour et d'émotion. Donc le visuel, c'est le premier, ça fait partie des sens. Donc c'est de voir que l'assiette est belle.
Mais au-delà de la mode, Arabelle arrive à sublimer ses plantes, ses aromates, ses légumes dans une assiette qui est très personnelle, très artistique, très visuelle, outre les bienfaits pour la santé. Par les chefs de cuisine les plus traditionnels, c'était un peu regardé de haut. Parce qu'on se disait avec quoi elle vient, c'est une femme, elle va s'occuper des jolies fleurs qu'elle mettra dans son assiette, point à la ligne. Mais tout doucement, elle a gravi les échelons, la reconnaissance, et maintenant elle a une reconnaissance aussi internationale. Et tous ces chefs un peu d'une autre époque, ils n'ont plus qu'à se taire. Et ils se rendent bien à l'évidence qu'elle est là, qu'elle existe, et que la reconnaissance est tout à fait à l'ordre du jour.
Partir aussi sur la construction de l'assiette, donc la technique, le goût, et chaque fois intégrer du croustillant, du moelleux, c'est très important. La texture, oui.
Et les champignons, va-t-elle dire, vous connaissez?
Ah voilà, ça c'est aussi une de mes grandes passions. Parce que je commençais tout petit, j'avais 4-5 ans, mon papa m'a appris ce qu'il savait. J'ai acheté des livres, j'ai développé mon savoir. J'ai testé petite centaine de variétés de champignons, je vais dire, différents. J'en ai déjà fait goûter, donc je suis un petit peu son conseiller champignons.
Moi, je m'appelle Pierre Thierry Failly, je suis originaire de Marchin. Je suis né à Marchin. Mes parents ont une ferme familiale ici à Marchin depuis 3 générations. Et moi, je suis le dernier de 3 enfants. J'ai entrepris des études électromécaniques avant d'arriver ici avec Arabelle dans la restauration, on va dire.
Le rouge, c'est pour le sang. Tout ce qui est orange et jaune, c'est pour la peau. Tout ce qui est vert, c'est pour la digestion et l'estomac.
J'ai trouvé mon fil conducteur. J'ai trouvé mon CQFD, en fait. C'était un univers différent dans le vin, donc je ne connaissais pas du tout. Une fois que j'avais trouvé une réponse à une question dans le vin, mais j'avais une nouvelle question qui apparaissait tout de suite. C'est infini, en fait, le domaine du vin. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. On ne se lasse pas. Et c'est jamais la même chose. Ça nous donne envie toujours d'aller fouiner, d'attiser notre curiosité pour aller plus loin.
Les sauges, ananas, vous pouvez goûter. Hein. Il y a des fraises 4 saisons, il y a toutes des menthes différentes, il y a des asperges aussi.
Comme nous, à la ferme, on faisait tout nous-mêmes, on créait nos outils nous-mêmes pour avancer, et on s'est créé des bâtiments nous-mêmes, on s'est fabriqué tout ce qu'on avait besoin pour avancer. Et les vignerons, c'est un peu la même chose aussi, ils fabriquent leur style. Et ils marquent leur empreinte dans le vin, et c'est souvent à l'effigie du personnage.
Quoi, c'est la saison des asperges. Je travaille beaucoup avec des maraîchers qui sont locaux, qui sont en naturel bio, parce que je ne peux pas non plus tout faire, et puis je n'ai pas spécialement envie de tout faire, il faut faire travailler un peu tout le monde aussi. Sur les asperges ou les fraises, bon, la pomme de terre, je ne fais pas, mais je n'utilise pas tellement. Pour moi, les plantes sont très importantes pour vitaminer aussi chaque saison, comme l'ortie, le plantain, le pissenlit. Tout ça, ce sont des détox du foie. Donc on fera au printemps et on fera en automne des infusions ou les travailler dans la cuisine, comme épinards, dans les œufs aussi. Je suis fort intéressée au sans gluten, sans lactose, sans sucre. Enfin, les effets que ça faisait sur le corps, en fait. Parce que sans, encore une fois, j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il faut un équilibre, comme on parle de l'Ayurveda, mais il ne faut pas exagérer en fait. Et il faut utiliser du bon, sans pesticides, sans produits chimiques, sans additifs, sans conservateurs. Voilà, ça c'est ma ligne de conduite. Vraiment, d'essayer de faire un maximum au naturel. Donc dans les menus, c'est vrai que j'utilise pas de crème, mais j'utilise encore un bon beurre pour cuisiner par exemple, parce que le beurre n'est pas hydrogéné. Ça, je suis quand même une enfant de ferme, hein. Donc j'adore les bons produits, mais les vrais. Et le beurre, le corps l'assimile bien, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui sont sans lactose, sans produits animaux, ben là, j'ai des alternatives avec des laits végétaux, que je fais aussi des bases avec des graines d'amandes, soja, qu'on fait tremper, mixer.
Donc moi, j'aime bien les vins droits, donc souvent j'ai affaire à des personnages très rigoureux, très justes, avec les mains bien gercées parce qu'ils sont dans leur vigne et pas sur leur PC. Des vrais artisans viticulteurs.
C'est ça, dans l'herboristerie, que j'ai beaucoup appris, c'est de bien reconnaître la plante par la tige, par les feuilles, la disposition, les saisons quand elles poussent, et aussi les effets. Donc je vais chaque fois voir la vertu des plantes, les effets sur le corps, tout ce qu'on peut faire avec. Enfin, j'ai plein de bouquins aussi là-dessus.
Tout ça pour en venir au fait que l'artisanat, il y a différents types d'artisanat. Il y a l'artisanat qui est vraiment travailler et l'artisanat qui est juste consulté.
Toujours le problème, c'est le temps. Il manque de temps. Ah, on ne l'achète pas, le temps, encore. Hein. Mais voilà, après, quand on est centré en soi, on arrive à trouver du temps. J'ai été étonnée moi-même. Prendre conscience des choses. Ça, c'est, je pense, la plus belle phrase qu'on peut dire aujourd'hui, c'est prendre conscience de qui on est, de comment on fonctionne, de l'univers, la symbiose. Prendre conscience qu'on vit qu'une fois et qu'il faut profiter de la vie, juste ou pas. Vous dites plus rien. Bon, voilà la première serre. Là, j'ai encore des cycles en terre parce que j'utilise beaucoup les petits bouts et tous les petits fruits. On a déjà pas mal récolté d'ailleurs. Et là, c'était tous mes concombres et cornichons qu'on vient d'enlever parce que je vais laisser place à ma plus grande table. Je ne suis pas pressée parce que ça va être beaucoup plus pour les semis. En janvier, février, donc voilà. Et ici, c'est un peu...
Marchin, village d'artistes. L'art de la bouche, l'art du visible. Marchin, village d'artistes. L'art du visible. Avec Jean-Paul Ruel, Jackie Le Couturier, Sylvie Cannon, Jean-Michel, Marie-Ève Maréchal et Pierre Mossou. Mais on parle de Pierre Mossou.
Ouais, ouais.
Jacques Le Couturier m'a dit que c'est son second centre culturel ici.
Oui. Ouais, c'est un adepte des matchs du Standard. Donc, comme je diffuse tous les matchs du Standard ici, il vient régulièrement regarder les matchs, avec souvent accompagné d'une amie et de son ami Manu. Et il vient de passer du bon moment ici. On passe souvent du bon moment ensemble.
Marchin, village d'artistes, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Régulièrement, en tout cas, quand il y a des invités au centre culturel, ben, ils viennent boire un verre ici, souvent accompagnés de pièces. Ils viennent montrer le café du village, qui est un endroit typique. À l'instant, là, il y a des Flamands qui sont venus voir. Oh, quel beau café, et c'est toujours comme ça. Quel beau café. Et... C'est familial, évidemment. Il y a 95 ans que c'est la même famille. Au décès de ma maman, quand j'étais donc à l'Athénée de Marchin, j'ai arrêté mon travail pour reprendre le café. Je suis né ici, j'ai grandi ici, donc je sais ce que c'est. Je sais que ça représente un café dans un village.
Pour moi, c'est important. Ici, sur Marchin, c'est une commune très vaste. C'est malheureusement que 6000 habitants, mais c'est très, très vaste en superficie. C'est une des plus grandes communes de Belgique. Termes de superficie, je répète. On a tellement des métiers, des artisans, de métiers différents, tout se complète.
Je reviens de chez Arabelle Merlan,
oui.
Vous connaissez ?
Oui, oui, restaurant étoilé du coin, hein, qui était à Huy au départ, et qui maintenant est venu dans leur domicile, je vais dire, ils ont fait d'une pierre deux coups. Construit une maison, ils ont fait le restaurant, ce qui leur permet aussi d'avoir un très beau jardin. Je suppose que vous l'avez vu, une renommée internationale. J'ai régulièrement aussi des clients qui vont aller chez elles, qui arrivent trop tôt, qui viennent boire un verre ici et qui disent « Oh, quel beau café aussi, et quelle chance vous avez dans un petit village comme ça d'avoir et un café et un restaurant comme ça. »
Avec un personnage qui a joué un rôle important, qui est Pierre Mossou. Vous l'avez connu ? Vous le connaissez ?
Je le connais un petit peu, je ne vois pas souvent parce qu'on a des horaires complètement décalés, mais je connais bien son engagement en tout cas, qui était énorme, en tout cas son style, et son empreinte restera, parce que je pense qu'il va en prendre un peu de recul.
Ce café de la place, c'est Chéruel, a communément appelé Chéruel, ce qui est notre nom de famille, depuis 1923.
Mais donc c'est important d'avoir des gens comme ça qui donnent une dynamique et qui laissent une trace derrière et qui laissent surtout un élan. Et l'échelle, elle est toujours bien là et on continue à monter dessus.
J'ai une salle derrière, où, un écran de 2 mètres sur 6, où là on fait la projection de tous les matchs de la Belgique lors des championnats d'Europe, championnats du monde. Ça fait une ambiance terrible. Jean-Paul Ruel.
Pour évoquer les 25 ans de travail au centre culturel à Grand Marchin, voilà, je pense à certaines personnes. Vous me dites ce que vous voulez.
Il y a beaucoup de monde. Hein.
Oui, Jackie a fait une très longue liste. et moi, j'en ai rajouté quelques-uns.
Si on pouvait être entouré de murs comme au Moyen-Âge, Marchin serait autonome. Voilà.
Et Marchin est aussi connu pour avoir une activité culturelle et artistique importante.
Tout à fait. Il y a un centre culturel qui existe là depuis quelques années quand même. Circabule, entre autres. Il y a aussi Chapiteau. Il y a des spectacles, les arts de la rue qui sont là donnés régulièrement. Et l'air de rien, ça fait venir des gens de France, de Hollande, des Anglais, des Luxembourgeois, des Allemands. Moi-même qui habite Marchin, je suis surpris de cette mouvance, on va dire, artistique qui donne un super élan à la commune, parce que tout le monde y met du sien. Voilà.
Le 31 décembre 1994, c'est une exposition qui avait pour titre « Jardin » au pluriel, parce que dans ma grande naïveté, thème qui va intéresser tout le monde à la campagne, cette exposition sur le thème du jardin avait 3 phases. Et la première phase, donc, était une exposition dite d'art contemporain, d'art actuel, d'art d'aujourd'hui. Et j'avais réuni 6 personnes dont j'appréciais évidemment le travail. Je vais vous les citer. Raphaël Butz, il habitait à Lokeren, je crois, à ce moment-là, ou dans la région de Lokeren. Très, très content de pouvoir inviter Raphaël Butz. Marie-Jeanne Secato, qui est une jeune artiste de Liège, longtemps qu'on n'entend plus parler d'elle. J'avais découvert son travail à la galerie là, à Liège. Une photographe allemande qui vivait à Bruxelles, et dont j'ai complètement perdu la trace aussi, Anastasia H. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Et puis j'avais pêché deux jeunes artistes à la galerie Alain Guittard de Paris. C'était à l'époque, puisqu'il y a 25 ans, c'était une jeune galerie, Alain Guittard, qui existe toujours. Hein, et j'avais repéré là, les travaux d'Antoinette Ohanessian. Elle faisait des dessins avec du papier collant coloré. Donc elle collait au mur, je me rappelle qu'il y avait un oiseau en papier collant, des fleurs, et l'autre, Jean-Christophe Robert, lui, il proposait des petites peintures, je me rappelle de... Allez, il y a ces soupes Roico, oui. Eh bien, c'était des sachets de Roico, mais peints, quoi,
ah oui.
Sur de la toile. Et il y avait déjà la première exposition, Cécile Vendresse, dont on aimait déjà... beaucoup, beaucoup le travail, les dessins, et à qui on a rendu hommage cette année-ci, puisqu'elle est décédée en mai 2015.
Mon prénom c'est Jean, mon nom c'est Michel, donc Jean-Michel. Je suis le premier directeur du Centre culturel de Marchin, oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
L'idée c'était Les Jardins, ouais. Exposition d'art actuel, suivie d'une exposition aussi sur le thème de jardin, mais exposition de gravure. Et là, c'était déjà l'idée d'être dans le village, de faire des choses avec les habitants. Et donc j'avais invité trois graveurs ou graveuses, je ne sais pas ce qu'on doit dire, de l'Académie des Beaux-Arts de Liège, qui sont venus pendant plusieurs semaines travailler chez des habitants de Marchin. Et c'était Maria Pache, Margarida Coelho et Anne-Véronique Goffin qui ont rencontré les gens, qui sont venus travailler et qui ont fait de la gravure sur le thème du jardin. Et ça a été l'objet d'une deuxième exposition.
Dans les années 80, oui, c'est ça, oui.
Et la troisième sur le thème du jardin voulait toucher les enfants principalement, puisqu'on a réuni, avec Sylvie Canon, on travaille à ça, des dessins originaux, d'illustrateurs de livres de jeunesse sur le thème du jardin, mais avec des choses absolument magnifiques. Et je pense notamment à Anthony Brown ou à Anton Krings, des gens qui font un travail remarquable. Et tous les travaux étaient présentés et on mêlait une série d'animations à l'attention des enfants.
Pierre, c'est une des âmes du Centre culturel de Marchin. Il faut se dire que dans les années 80, nous avons eu la chance incroyable de pouvoir travailler avec des statuts tout à fait particuliers, qui étaient des statuts de chômeurs mis au travail, etc. Mais nous avions aussi la chance d'avoir des équipes plus nombreuses. Et donc, quand j'ai commencé au Centre culturel de Marchin, moi, j'ai travaillé beaucoup l'éducation permanente et je trouvais qu'il était vraiment intéressant d'avoir au Centre culturel, à mes côtés, une personne qui pouvait développer un projet artistique. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Je suis descendu à Angers, j'ai ouvert la porte d'une chambre, j'ai demandé « Pierre, est-ce que tu es partant ?» Et Pierre était partant. Je crois qu'à ce moment-là, les choses étaient un peu plus simples que pour le moment. C'est-à-dire qu'on travaillait en fonction des affinités qu'on pouvait avoir avec les gens. On travaillait en fonction de ce qu'on connaissait d'eux. Je connaissais Pierre. Il m'avait beaucoup impressionné déjà lorsqu'on avait parlé d'art.
Je pense encore à Sylvie qui faisait réaliser aux enfants des dessins avec des légumes.
Sylvie Canon, le Centre culturel de Marchin, est comme un retour pour vous, avec le départ aussi de Pierre Mossou.
Oui. Je n'ai jamais quitté vraiment le Centre culturel de Marchin, et c'est une longue histoire qui a commencé il y a, je sais pas, près de 25 ans. Et donc, oui, c'est lié à notre histoire avec Pierre.
Marie-Ève Maréchal. J'ai travaillé avec Pierre pendant 17
17, 18 ans, quelque chose comme ça. Je suis arrivée au Centre culturel de Marchin en tant qu'animatrice éducation permanente et Pierre était à l'époque directeur et aussi animateur art plastique. Donc voilà, nous avons œuvré chacun à nos secteurs spécifiques en nous cognant un peu, en se demandant un peu en quoi le fait de mettre une sensibilité professionnelle au service des arts plastiques dans des lieux d'exposition et courir les quartiers particulièrement les plus éloignés de la culture de Marchin pour tenter d'aller donner la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la voir, avait un rapport. Qu'est-ce qu'on partageait d'autre, hormis l'employeur et le toit et le lieu de travail? C'est une question qui a traversé toute notre collaboration.
Aussi, Pierre, c'est quelqu'un qui a toujours été, depuis le début et au travers de toutes les péripéties du temps et de l'histoire, toujours été soutenant pour moi, toujours été
Sylvie Cannon.
Encourageant, mais avec peu de mots, jamais manifesté par des grands discours, il m'a jamais convaincu de rien du tout, mais sa présence, son regard, ses quelques mots, ses invitations dans les expositions collectives ou ici, évidemment, c'est un peu la cerise, je ne sais pas comment dire, quoi, mais voilà.
Le bouquet final.
Le bouquet final, peut-être, oui, voilà, le bouquet final, ça c'est bien, oui. Voilà. C'est la clôture de son travail, enfin, oui, de son travail ici au Centre culturel, mais pour moi, c'est aussi la fin de quelque chose, et le début d'autre chose, mais ici...
Pierre est parti beaucoup au départ de l'image imprimée, c'est de là qu'il est parti, en fait. De la gravure essentiellement, avec cette touche intimiste qu'on lui connaît et qu'il va tenir jusqu'au bout d'ailleurs, il va continuer sur l'image imprimée très longtemps avant de s'ouvrir, notamment à la photographie via la Biennale, qu'on connaît peut-être davantage pour le moment, mais son premier amour, je veux dire, ce dont il ne se départira jamais finalement, c'est la gravure.
Cette exposition, elle coïncide avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, un très très long cycle qui a commencé en 2002 et donc c'est curieux qu'il y ait encore cette coïncidence là d'un retour quoi. Vous parliez d'un retour, mais oui, c'est quand même un retour de cycle qui se termine et un nouveau qui commence, mais
Marchin, village d'artistes, l'art du visible, avec Jean-Paul Ruel, Jackie Le Couturier, Sylvie Cannon, Jean-Michel, Marie-Ève Maréchal et Pierre Mossou. L'exposition intitulée « Charme » de Sylvie Cannon, dessin, gravure, peinture, se tient au Centre culturel de Marchin jusqu'au 24 novembre.
Il est toujours difficile de parler de la quête des silencieux.
Souvent je travaille à l'aveugle, donc je laisse apparaître des choses et souvent je suis charmée ou parfois même ensorcelée ou happée par... les regards qui arrivent, ou les visages, ou les êtres qui apparaissent. Ils ne sont pas tous là, mais il y en a quand même pas mal dans le cours de mon travail. Et donc, c'était à ça que je voulais me référer, cet ensorcellement, cette espèce de fascination parfois qui survient.
Et en même temps, ce silence oblige, contraint ou encourage celui qui cherche en tout cas à observer, à faire des hypothèses, à sentir, évidemment, les arts plastiques ne sont pas des mots, à deviner et à se faire sa propre réponse. La quête de Pierre, c'est la sienne, je ne peux pas en parler. Par contre, ce que sa quête a donné à ceux qui sont passés par les salles d'expo, je pense, et il m'a fallu du temps, parce que je ne suis absolument pas du monde des arts plastiques, ça n'a pas bercé mon enfance, ce n'était pas ma culture. Ça l'est peut-être devenu un petit peu plus, mais je n'ai pas encore l'impression d'y coller. Pierre, par contre, c'était son monde, c'est par là qu'il dit l'humanité.
Pour certains, ça peut être aussi des choses charmantes, parce que parfois c'est un peu charmant, mais pour moi c'est souvent plus fort que ça, plus profond que ça, voilà. Ensorcelé par les images naissantes, et parfois quand je les regarde après coup, je trouve qu'elles sont elles-mêmes des charmes, quoi, un peu des sorts ou des choses qui agissantes, quoi. J'ai l'impression que ces images, parfois, elles sont agissantes encore, voilà, elles sont tirées du rien, elles viennent de, je sais pas, de l'inconscient, et elles existent tout d'un coup, et je trouve qu'elles ont une existence autonome, quoi, finalement.
Il m'a fallu du temps pour sentir que il y avait dans ses choix quelque chose de l'ordre de la revendication, de la résistance, voire de la militance, mais dite silencieusement et dite avec grande délicatesse. Il n'a jamais changé de cap, et cette endurance qui a été la sienne a fini quand même par faire acceptation, y compris dans la population marchinoise, qui pourtant ne s'est jamais gênée pour fustiger le fait que leurs enfants en feraient autant. Et Pierre ne s'est jamais laissé démonter, et il a continué. Je pense qu'il sent quelque chose, et il y va. Et tout ce qui entoure ça ne le perturbe pas.
Il y avait déjà eu des expositions d'art plastique au Centre culturel de Marchin.
Oui, mais pas à Grand Marchin, puisque, en fait, on a voulu, avec Jean, le directeur de l'époque, on a voulu qu'on installe le Centre culturel de Marchin, parce qu'on a considéré directement, en voyant les lieux, que ça pourrait nous aider beaucoup à faire des propositions d'expositions d'art plastique. Sinon, avant ça, on en avait fait une importante en 1991 ou 90 ou 91, une exposition de Christian d'Autremont, mais qu'on avait faite à la Galerie Juvénale de Huy. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, Jackie, le Centre culturel gérait à l'époque le relais touristique de Villetaroul. On s'occupait de la gestion, c'était donc à la fois un bistrot, mais un espace d'animation, et on organisait quelques expositions là-bas. Mais alors, des expositions dans des conditions... En fait, c'est un bistrot, quoi, tu vois, des grilles caddies. Mais je me rappelle que Pascal Rouffard, par exemple, a exposé sur des grilles caddies au relais touristique de Villetaroul.
C'est à côté du terrain de football. Là.
Oui.
Et quand tu as commencé en 95, c'était juste... L'école existait déjà, venait de se terminer.
Non.
C'est une ancienne école, le
c'est
centre culturel.
C'est une ancienne école, mais c'était terminé 20 ans avant.
C'était quoi avant?
Ah ben, écoute, c'était abandonné, mais le projet du bourgmestre à l'époque, Pierre Burton, était d'y installer le musée de la vie d'autrefois. Voilà. Jusqu'au moment où, comme je le disais, Jean et moi avons débarqué, avons vu le lieu et avons fort influencé le bourgmestre pour qu'il y installe son centre culturel, puisque c'est lui qui l'avait créé en 82 ou 83. Oui.
C'est un diesel. On ne le voit pas œuvrer. C'est un flux continu, comme ça, imperturbable. Voilà, et c'est une force. C'est en ça que c'est une force admirable, vraiment.
Tout a toujours été affaire de rencontres. Moi, j'étais, depuis que j'ai 18 ans, même un peu avant, j'étais très, très intéressé par les arts plastiques. C'est comme ça, considérant que ça m'apportait vraiment beaucoup et que ça me nourrissait beaucoup et que le travail qu'on me demandait ou que je proposais, c'était celui-là, d'être un peu l'intermédiaire entre des plasticiens et un public. Et les plasticiens, tout s'est toujours passé au niveau des rencontres. Quand je voyais des choses, j'allais vers les gens. Je voyais beaucoup d'expositions à l'époque. Hein,
tu participais à des jurys, tu avais des petits coups de cœur.
Les jurys, pas encore. Mais alors, voilà, quand quelque chose me touchait direct, je prends contact avec l'artiste. Je me rappelle par exemple de Harpaïs Dubois, qui était... Je ne sais plus dans quelle galerie à la foire de Bruxelles. J'étais très très touché par son travail et voilà, je dirais, dans les jours qui suivaient, je prenais contact avec Harpaïs Dubois, que je ne connaissais pas du tout, qui montrait son travail dans une galerie à la foire de Bruxelles. Et puis il y a aussi tous les Liégeois. Donc, tous les magnifiques artistes de la région de Liège. Il y a énormément d'artistes de très grande qualité. Et c'est un... Voilà. Donc c'était vraiment... Ça a toujours été important de rencontrer, bien sûr, une œuvre, mais aussi une personne. Voilà. D'organiser la rencontre entre l'œuvre et la personne et le public. Tout le monde entier.
Je crois que Pierre a cette approche et ce savoir-faire qui est justement de permettre aux artistes de partager l'intime. C'est une chose qui est relativement rare et c'est une chose qui est précieuse. Et je crois vraiment que Pierre, là-bas, permet à chacun de toucher à sa véritable identité. Et tout ça se passe avec une simplicité remarquable. On doit beaucoup ça, Pierre. Il est finalement très peu intervenant et en même temps, il sait parfaitement bien où il veut en arriver. Il touche à la liberté de chacun. En ce sens-là, c'est une valeur extraordinaire qu'il a amenée au Centre culturel de Marchin.
Et l'avenir de ces expositions dans le Centre culturel ?
Ah, l'avenir, c'est donc comme moi, je vais être en fin de carrière, on va dire. Quelqu'un va me succéder. Il y a eu un appel à candidature. Beaucoup de candidats, 150 candidats. Et donc, le conseil d'administration s'est entouré d'un jury, quelques experts, qui ont entendu 6 candidats qui ont été retenus. Si, je pense, je les connaissais, je pense que c'était de très bons candidats. Et bon, voilà, il a fallu que le jury, dont je ne faisais pas partie, évidemment, je n'ai pas voulu en faire partie, a choisi et qui va prendre ses fonctions très bientôt, Emmanuel Dautrep, pour travailler au Centre culturel de Marchin ces prochaines années à développer les projets d'art plastique.
Voilà. Mais Pierre Mossou, quand vous dites 150 candidats, ça prouve que vous avez bien travaillé.
Je ne sais pas, ça ne dit rien. Je pense que... Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi, qui ont même des obligations de poser sa candidature. Oui.
Si ça, on a autant de candidats, ça veut dire que c'est des gens qui connaissent le centre culturel et qui savent quand même que
oui,
la succession va être
oui,
facile.
Oui, oui, sans, évidemment. Mais, c'est que c'est un poste qui intéresse les gens. Un poste, oui. Agréable.
Oui.
À faire un travail agréable.
Quelqu'un de créatif peut vraiment s'épanouir dans ce poste-là.
Oui.
Quoi, c'est... Et tu termines aussi avec une exposition importante de Sylvie.
Oui,
elle a fait partie du parcours du centre culturel aussi. Et c'est quand même une grande artiste à qui tu offres les 6 mètres de la dernière exposition.
Oui, c'est un peu naturel. Elle a été aussi, depuis le début, toujours à nous aider. Et il m'a semblé absolument logique de terminer, entre guillemets, avec elle. Elle est tellement proche du centre culturel, elle nous aide, pas seulement pour les expositions, mais sur nos petites publications, et aussi sur le sens qu'on donne aux choses. Quoi. Voilà. Oui.
Je vous invite à déguster les bières qui vous attendent.
Merci beaucoup.
J'ai pu rencontrer Sylvie Cannon dans cette exposition qui s'appelle Charme, qui se tient tout le mois de novembre. Est-elle une compagne de route ou plus que ça ?
Je crois que c'est plus qu'une compagne de route, c'est une amie du Centre culturel de Marchin, une amie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a donné sans compter au Centre culturel. C'est quelqu'un à qui on doit une fidélité remarquable, et c'est très beau la fidélité. Et je trouve que ça se sent fort quand on parle avec le public.
Et là, on a encore des radis et tout ça. Là, c'est encore des haricots parce qu'en fait, une fois que c'est fini, parfois, j'en ressème encore. Comme ça, je suis encore à voir les fleurs. Donc, quand je mets les assiettes avec les haricots, ben, je mets les petites fleurs qui ont énormément de goût aussi. Ça, c'est intéressant. Comme ça, on voit toute l'évolution de la plante sur l'assiette.
Marchin, village d'artistes. L'art de la bouche, l'art du visible. Marchin, village d'artistes, l'art de la bouche. Avec Arabelle Merlan, Joël Rochette, Sébastien Bruot, Pierre Thierry-Failly. Marchin, village d'artistes, l'art du visible. Avec Jean-Paul Ruel, Jackie Le Couturier, Sylvie Cannon, Jean-Michel, Marie-Ève Maréchal et Pierre Mossou. Marchin, village d'artistes, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. L'exposition intitulée « Charme » de Sylvie Cannon, dessin, gravure, peinture, se tient au Centre culturel de Marchin jusqu'au 24 novembre. Arabelle, c'est un nom que vous connaissez pour y être allée, Sylvie Cannon.
Oui, j'y suis allée justement dernièrement. J'étais invitée par mon parrain que j'avais plus vu depuis longtemps. Et c'était une très belle après-midi.
Je fais mes piments, parce que les piments pour les poumons, donc on en a besoin. Et j'aromatise avec des basiliques différents, avec des sauges différentes, avec des borophyllums, avec des coriandres, la feuille de géranium à la rose. Et puis aussi des fleurs pour apporter certaines vertus aussi, très importantes, du latagète. Donc en fait, je me suis inspirée de yuzu kosho que j'ai goûté au Japon, un piment assez, assez frais parce qu'aussi j'intègre des agrumes.
Un beau jardin, on peut avoir l'impression de manger les récoltes du jardin. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout, mais il y a comme ça le sentiment qu'on est là à la source à la fois des produits et de la création et d'un raffinement et d'une poésie et d'un jeu qui est celui de la création, je trouve, de cette mise en œuvre des éléments, des rapports de goût, mais aussi des rapports visuels. Enfin, tout ça, ça doit être très gai d'ailleurs de pouvoir composer avec à la fois les yeux et le goût, les parfums. C'est admirable, quoi, je trouve. C'est, ouais.
On a beaucoup travaillé pour les enfants. Je pense encore à Sylvie Cannon, qui était là depuis le début et qui a beaucoup animé les ateliers au cœur des expositions. Mais ça a toujours été quand même assez compliqué. Les problèmes de médiation sont souvent des problèmes simplement techniques, on va dire, de déplacement. Très difficile de susciter l'intérêt, et quand ça va, ça va. Et puis on a quand même mené beaucoup de projets, je pense, à Ville d'Art ou à la Biennale de photographie, où là, beaucoup quand même d'habitants s'impliquent directement dans l'organisation des événements, on va dire.
Et ça sort des murs déjà, ça sort des murs.
On sort des murs, oui. Bon, oui, ben oui. On sort des murs, mais ça fait longtemps qu'on sort des murs aussi par l'installation de sculptures dans le village. Ça a commencé en 2000, ça. Maintenant, il y en a une quinzaine. Le plus récemment, on est sorti des murs. Vraiment, parce que justement, en constatant la difficulté de toucher des étudiants, enfin, de faire venir des étudiants au centre culturel qui se trouve à 2 kilomètres de l'Athénée de Marchin, eh bien, à un moment donné, on a eu l'idée de nous y aller et de construire, de faire construire ce qu'on appelle pompeusement un pavillon des arts à l'Athénée, qui est un magnifique petit bâtiment et qui est à destination exclusive de projets d'art plastique pour les étudiants et le plus souvent qui mêle les étudiants ou les professeurs au projet. Très important.
J'ai eu l'occasion, pas souvent, mais d'aller dans un ou l'autre autre restaurant gastronomique. Ici, je ne me suis pas sentie emportée dans une sophistication un peu spectaculaire ou qui se veut original, ça l'est, mais je trouve que c'est dans la simplicité, quelle originalité, et voilà. Voilà, voilà.
J'ai bien refermé. Voilà, ici, on l'a mis chauffé, donc c'est un peu toutes les plantes que j'ai commencé à récolter. J'ai quand même engagé un jardinier à mi-temps qui vient m'aider quand même. Une chouette personne qui est guide nature et qui aussi a fait l'herboristerie et guide dans les champignons. Donc c'est agréable parce qu'il me comprend, il sait ce que je veux. On est tous les deux les yeux pétillants quand on est dans le jardin, alors pas besoin de parler. C'est ça qui est gai, travailler avec des passionnés.
Donc l'automne chez vous, c'est le printemps.
C'est impressionnant d'ailleurs, le jardinier, il se demandait pourquoi je ressemais comme ça les serres. Je dis, écoute, ici, moi, j'aime bien de faire des essais, d'expérimenter. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que fin janvier, début février, quand les jours rallongent, il y a tout qui monte. Il y a tout qui grandit beaucoup plus vite et ça monte. Et là, ça devient donc en fleurs et c'est là que j'ai les petites cosses que j'utilise. Mais alors, je travaille tout quand même. Et chaque fois, je n'arrache pas la plante. Je prends les feuilles, puis ça revient, ça repousse à l'infini. C'est gay. Moi, je m'amuse comme un enfant dans ma salle de jeu. C'est... Ce que j'aime bien avec le jardin, ça me décompresse. C'est vraiment mon lâcher-prise.